Je ne sais pas trop comment intituler cette halte spirituelle. Je l'ai appelée Vision de l'homme en jeu de société. On aurait pu l'appeler autre chose. À chacun sa vérité. On aurait pu appeler beaucoup de choses. Bon, on l'a appelé de cette manière. Je l'ai appelé de cette manière-là. Alors, de quoi on va traiter aujourd'hui ? On va essayer de prendre conscience que derrière beaucoup de notre... On va essayer d'examiner notre société d'une certaine manière. Et derrière beaucoup d'éléments de notre société, il y a toujours une vision de l'homme. Derrière les lois, derrière les engrenages économiques, derrière la question de l'éducation, c'est très important pour l'éducation, hein, pour celles d'entre vous qui ont encore à éduquer des enfants, il y a, ou des petits-enfants parfois, s'occuper de façon différente, mais il y a toujours une vision de l'homme. Et la vision que nous propose notre société est plus une vision, on peut dire, relativiste. Alors on verra ce que ça veut dire, une vision relativiste, qui s'oppose à une philosophie qu'on appelle réaliste. Donc on va parler de questions philosophiques. Mais j'essaierai de le faire avec les termes les plus simples possibles. C'est pas facile parce que vous n'avez pas, vous avez la formation philosophique de votre lycée. Donc pour certaines, ça remonte un peu, on va dire ça comme ça. Donc pour d'autres, c'est peut-être plus récent. Mais bon, ça fait pas de mal d'écraser les neurones philosophiques de temps à autre pour pouvoir un peu méditer et vous donner des pistes pour comprendre aussi beaucoup de manières d'agir de nos contemporains, surtout dans l'Europe occidentale. Hein. Alors, on va commencer... par le relativisme. Qu'est-ce qu'on appelle le relativisme ? Le relativisme, c'est, on peut dire, une théorie selon laquelle tout se vaut. Il n'y a pas de vérité objective, mais c'est le sujet, c'est-à-dire la personne, qui crée sa propre vérité. Alors, on peut tout à fait appliquer à cette mentalité ce que disait le philosophe Pascal, vous connaissez peut-être la citation, hein, « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, chacun établit son système et il n'y a pas d'une certaine universalité de normes. Ce qui est vrai quelque part est faux ailleurs. Et ce qui est faux ailleurs est vrai dans un autre lieu. Ce qui est vrai pour moi sera peut-être faux pour l'autre. Il n'existe pas évidemment un ordre moral, mais il y a simplement des opinions. Alors on entend bien une chose, c'est qu'au fond, on affirme qu'à chacun sa manière de vivre, à chacun sa vérité, et la notion même de vérité objective devient inconcevable. Tout est relatif. Et relatif à quoi ? Relatif au sujet qui pense. C'est moi qui détermine la vérité. À chacun sa vérité. Et si quelqu'un vient de l'extérieur avec, en me disant « Mais écoutez, non, ça c'est pas correct », ben ça c'est vous qui le dites. Pour moi, c'est correct. Dans le relativisme, il y a ce qu'on appelle le primat du multiple et du pluriel. Chacun, d'une certaine manière, fait son marché. Par exemple, dans la question religieuse, ça s'applique. Tout ça, on va voir toutes les conséquences cet après-midi, elles sont énormes. Hein? Mais dans la question religieuse, c'est ce que Benoît XVI a dénoncé lors JMJ, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous avez lu les homélies de Benoît XVI au moment des JMJ, mais c'est ce qu'il dénonce précisément. Il dénonce une attitude qu'il appelle de bricoleur. Comme chacun construit sa vie sans être en lien avec quelque chose d'objectif, de même en matière religieuse, on va rassembler les choses, on va bricoler les choses sans un souci d'une certaine objectivité. Pour ça que parler par exemple d'un credo devient pour certains inaudible. Parce qu'un credo, on rentre dedans. Disant, non, moi je vais construire ma foi. J'ai ma foi, on entend parfois cette expression. J'ai ma foi. Oui d'accord, mais est-ce que c'est la foi de l'Église ? Ou alors on prend dans la foi de l'Église ce qui l'intéresse, et on laisse ce qui n'intéresse pas, ce qui me gêne, je le mets de côté. C'est ce qu'on appelle le bricolage spirituel. Hein, bricolage spirituel. On fait son marché hein, dans le spirituel. Alors, s'il y en a certains qui offrent, par exemple, le New Age est complètement relativiste, ça c'est évident. Dans le New Age, il n'y a pas de doctrine. Parce qu'on se met en lien avec le grand tout et les énergies positives, et on essaye de capter les énergies positives. Vous voyez ça? Donc, évidemment, où est l'objectivité là-dedans? Je me demande. Alors, on vient dans les abbayes, parce qu'évidemment, les abbayes sont dans des centres, sur des centres géothermiques, à la croisée de chemin, donc il y a tout un truc extrêmement complexe. Mais là-dedans, si vous faites une chose et vous faites une autre, à la limite, on vous dira rien, comme il n'y a aucune objectivité. C'est moi qui construis ma foi dans le New Age. C'est la foi, elle est centrée sur moi, au fond. Hein, ça, c'est évident. Donc, chacun fait son marché. Hein, et donc, on arrive à un certain individualisme, par exemple, de la foi. Ça, c'est évident. On le voit assez... ce qui me gêne de l'Église, puis on est un peu tous pareils. Bon. C'est-à-dire que le relativisme, il est en nous. Hein. On n'est pas en dehors du monde, on n'est pas dans une bulle de cristal, et on verra à la fin, on n'est pas le dernier carré des justes au milieu des pécheurs. Il y a la division, elle passe en nous-mêmes. Et donc, comme l'homme a besoin de sens, il se met un projet, il se met à la source d'un projet qui répond à son besoin de sens. Et donc, il va construire sa foi. Mais ce que dit le cardinal Ratzinger, quand il était cardinal Ratzinger, il disait, mais une fois que j'ai construite, au moment où je vacille, au moment où j'ai une difficulté à croire, sur quoi je vais m'appuyer si c'est moi qui l'ai construite? En revanche, une fois que j'accueille et que je reçois, au moment de la difficulté, je m'appuie sur le témoignage, par exemple, de l'Église. Je m'appuie sur le témoignage d'amis, sur le témoignage des saints, pour grandir dans ma foi. Mais dans cette attitude relativiste et individualiste, c'est pratiquement pareil, c'est pratiquement synonyme, mais évidemment, je vais, comme c'est moi qui ai construit tout, et je suis à la source du projet, je ne l'accueille pas, mais c'est moi qui l'ai fabriqué, quand je rentre moi-même en crise, mais il ne reste plus grand-chose. Mais vous comprenez par exemple, comment la notion de credo, pour nos contemporains, apparaît même comme quelque chose qui enlève à la liberté, parce que dit mais bon, mais j'ai ma liberté, j'aimerais bien construire ma foi, et ça paraît comme une sorte de menace à une certaine autonomie, à une certaine indépendance. Oui, il faut que je rentre dans un credo, l'Église est trop dogmatique, etc., etc. On entend ça souvent. Mais au fond, le dogme, il protège ma foi. Il protège ma foi. Et il protège le fait que on va pas croire en n'importe quoi. Parce que si vous avez n'importe quel luberlu qui vous se met en lien avec les énergies positives, ou toutes sortes de pratiques... Parce qu'il faut voir, le New Age, c'est pas seulement des questions spirituelles, c'est toute une manière de vivre. Alors c'est aussi un peu lié au bio, c'est lié... Il y a une architecture, il y a une manière de s'habiller, mais tout est tellement centré sur soi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de New Age, on peut en parler une autre fois, mais c'est tout. On comprend pourquoi le New Age, au fond, a pris beaucoup d'ampleur. Et on parle de Jésus, mais un Jésus que je me fabrique. On parle de Jésus, là, ça, oui, mais on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Pas, c'est le cas de le dire. On n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde positives. Donc, on parle d'un Jésus. Donc, comme c'est le primat d'un pluriel, alors il faut une société plurielle, il faut une église plurielle, c'est-à-dire avec différents avis. Alors c'est vrai, mais où est l'unité? L'unité, elle est quand même de l'unité dans la foi, par exemple dans l'église. Mais ça, c'est pratiquement inaudible, ou c'est vu comme une contrainte. Vous n'êtes pas tolérant. Non mais... Vous voyez, si je dis que ça c'est une table... Et si moi je pense que c'est une chaise? Oui, mais non, écoutez, venons-en à la réalité. Oui, mais cette table, sans que je sois là, est-ce qu'elle existerait? Elle existe parce que je la connais. Et vous voyez, et donc, vous en arrivez à un manque de bon sens, on verra les conséquences, mais à me mettre moi à la source des choses, on en arrive à ce qu'il n'y ait plus de dialogue, mais une juxtaposition de modèles, chacun à son modèle. La notion même de corps, un corps, implique quand même une certaine obéissance à une finalité commune. Mais si c'est moi qui suis à moi-même ma propre mesure, et que je fixe moi-même mes propres limites, ben il n'y a plus de corps non plus. On rentre dans une église, et donc dans certaines obéissances, mais une obéissance qui est féconde, qui fait justement que je vais pouvoir grandir dans ma foi et rentrer. Je rentre dans un credo, mais qui est immense, et qui offre un travail théologique immense, mais simplement il y a des limites. Les limites disant, attention, si tu vas de tel côté, non, ça c'est plus la foi. Si tu vas de tel autre, c'est plus la foi. Mais en dehors de ça, il y a une possibilité immense de travail intellectuel, c'est tout le travail des théologiens, mais à accepter, tout simplement, d'être guidé, que la foi, elle ne commence pas avec moi. Alors c'est avec le relativisme va aussi ce qu'on appelle le constructivisme, ce qui est pareil, ce qui est un peu d'une autre manière de dire les choses. Le constructivisme, c'est-à-dire chacun répond à la quête de bonheur en assemblant les éléments qu'il considère comme importants pour être heureux. Donc, j'assemble les différences sans un souci d'une objectivité et sans limite. Chacun répond à la quête de bonheur en assemblant les éléments qu'il considère pour être heureux, importants pour être heureux. Et l'important, c'est qu'on soit cohérent. La cohérence, c'est le seul critère qui est important. Est-ce que tu es cohérent avec toi-même? Oui, non, mais est-ce que tu es cohérent avec la réalité? Ah ben non, ça c'est la réalité en elle-même. Non, non, l'important, c'est moi qui suis à la source. Mais là encore, et si un jour je ne suis plus heureux, qu'est-ce qui se passe? Si c'est moi qui ai construit mon bonheur, si en dépit parfois même de ma propre nature humaine qui ne dépend pas de moi mais que j'ai à accueillir, si un jour je ne suis plus heureux, ah ben on pète les plombs, quoi. Parce que précisément on est à la source de son propre bonheur. On s'est créé un système qui paraissait très séduisant, mais à un moment donné, si ça tout s'écroule. Et puis surtout, c'est, on peut dire, donc c'est une culpabilité qui est... Et puis il y a une anxiété parce que ça dépend de moi. Donc quand ça dépend de moi, il y a quand même une anxiété, une culpabilité, une certaine angoisse parce que je dois construire les choses au lieu de les accueillir. Dans le relativisme, la quête n'est pas celle de la vérité, mais celle de la cohérence. L'idée même de vérité objective est inaudible. La seule vérité, c'est celle que j'ai construite. À chacun sa vérité. Et l'idée même, par exemple, d'un critère extérieur à ce certain bricolage, à cette cohérence, de dire non, mais là, attention, il y a quelque chose d'objectif auquel vous ne pouvez pas toucher. On va prendre un exemple sur lequel on reviendra. La question du mariage homosexuel, par exemple, parle tout à fait de ça. Dit, ben écoutez, mais on a le droit, si on s'aime, au nom de quoi vous allez nous interdire? Vous mettez une limite et donc, nous demandons, nous, comme lobby homosexuel, lobby gay, au nom des droits de l'homme, c'est important de retenir ça, nous demandons l'accès parce que sinon, vous nous mettez une limite, vous êtes intolérant. Et on dit non, le mariage, objectivement, c'est l'union de l'homme et d'une femme. Ça, ce n'est pas dépendant ni des lois, ni de ma sensibilité. C'est comme ça. Maintenant, on va dire que c'est autrement. Et c'est imparable, politiquement c'est imparable, parce qu'on verra d'où est on essaiera de voir où est la crise, pourquoi on en est arrivé là. Comme on ne reconnaît pas l'être des choses, comme nous guidant dans notre chemin de vérité, Eh bien, on se met, c'est le sujet qui se met, c'est-à-dire la personne qui se met au centre. Et au nom des droits de l'homme, on dit on n'accepte plus aucune limite. Alors que la limite, elle est là pour précisément protéger les droits de l'homme. Mais comme les droits de l'homme sont une charte votée à la majorité et non pas l'expression toujours, ça l'est en grande partie, mais l'expression toujours des droits et des devoirs qui viennent de la nature humaine, eh bien c'est vrai qu'on en arrive à des choses un peu difficiles. Donc l'idée d'un critère extérieur à ce bricolage est même inadmissible. Non, je construis moi-même mes choses et vous n'avez pas à me mettre de limites. Sinon, vous êtes intolérant. C'est ce que Benoît XVI, il a dit, attention à la dictature de la tolérance. Alors on verra pourquoi on arrive. On a en germe tout ce qu'il faut pour arriver à un totalitarisme. Parce que précisément le totalitarisme, c'est que l'homme se met à la mesure de l'homme. Le totalitarisme, c'est que l'homme n'accepte pas d'autre mesure que lui-même. C'est la pensée unique. Et on est en plein dedans. De façon assez relativement soft, mais on verra, il y a de très graves dangers. Hein, quand même. La non-acceptation, par exemple, d'une nature humaine et la reconnaissance d'une nature humaine qui m'est donné et que j'ai à accueillir, la non-reconnaissance de ça, de dire non, ce qui est valable, c'est simplement ce que pense la majorité, eh bien évidemment, c'est la porte ouverte à tous les arbitraires. Et si la majorité pense que, je sais pas, on peut penser, on peut manipuler les foules déjà, puis ensuite on peut, si c'est ça, c'est, si la vérité dépend simplement de la majorité, sans référence à quelque chose de réel, mais où est-ce qu'on va? Dans le relativisme, il n'y a évidemment pas d'initiation, puisque le système commence avec moi, puis aussi termine avec moi. Pas d'étape à franchir. Tout se vaut, le tout tout de suite. Ce qui est assez intéressant, alors faut prêter un peu attention parce que c'est un peu compliqué, que le relativisme est une forme déviante du christianisme. Alors pourquoi on appelle ça? Pourquoi ça? Que le relativisme est une forme déviante du christianisme. Dans le christianisme, il faut voir qu'avec l'accueil de la grâce qu'est Jésus, la dignité humaine, je veux dire, a été élevée à un niveau absolument inégalé auparavant. Hein, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Hein, on connaît ça. Mais alors du coup, ça fait que, par exemple, la liberté humaine a pris d'un seul coup une hauteur et une amplitude qu'auparavant elle n'avait pas. Parce que avec ma liberté humaine, je peux accueillir ou non Dieu qui se révèle. Avec ma liberté humaine, je peux accueillir ou non le paradis, par exemple, ou accueillir Dieu pour l'éternité. Donc, ma liberté dépend ensuite de l'éternité. Quel type d'éternité je veux vivre. Mais aussi, par exemple, l'égalité. Le fait que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc, Dieu, l'homme s'est, par participation, a été élevé, a été remis dans cette communion avec Dieu, mais non seulement est remis dans la communion avec Dieu, mais a été élevé, sa nature humaine a été élevée à quelque chose de plus grand, à être fils dans le fils, c'est-à-dire à être fils de Dieu par participation. Donc on voit que l'homme a atteint une sorte de dignité et une sorte de hauteur et de grandeur avec le christianisme, mais bien sûr en dépendance de la grâce. Ça, je le reçois, je l'accueille, je rentre dans une participation à la divinité. Mais ce n'est pas moi qui suis à la source. Mais de là à dire, mais qu'est-ce qu'on s'embête avec la grâce? C'est vrai que le christianisme nous a révélé quelque chose. Allons plus loin. supprimons Dieu. Gardons au fond ce que nous a donné le christianisme. Liberté, égalité, fraternité, c'est d'abord des valeurs chrétiennes, mais dont on a vidé le sens et la foi et la présence de Jésus. Alors du coup, l'homme se retrouve sans Dieu d'un côté, mais avec une telle hauteur, une telle amplitude, qu'ensuite, c'est moi qui suis à la source. C'est vrai que j'ai une dignité, c'est vrai que j'ai une grandeur, c'est vrai que... Mais ça, c'est pourquoi ? Parce que Dieu est venu à ta rencontre pour t'élever. Sinon, t'étais par terre. Mais non, regarde, le christianisme n'est pas allé assez loin, allons plus loin. Donc vous voyez qu'au fond, ça c'est intéressant, le relativisme n'est possible qu'en régime chrétien, dans une ambiance chrétienne. On se doute pas à quel point toute notre culture quand même a été façonnée par l'évangile. La notion même de personne humaine est une notion profondément évangélique. Le soin de la personne, c'est dans toute l'histoire de l'humanité, ça. Mais aussi, on peut dire que le relativisme n'est possible avec aussi le développement des sciences. L'homme a été libéré de la nature. L'homme, petit à petit, s'est mis loin de la nature et tout son univers est un univers qui est fabriqué par lui. Alors regardez dans ça, cette pièce. Tout est fabriqué, bon, sauf le rameau. Le rameau, ça vient de la nature. Mais tout le reste est fabriqué par l'homme. Et on est de moins en moins en contact avec la nature. Et dire en contact avec la nature, c'est-à-dire dire en contact avec un élément extérieur à moi-même auquel je dois être en union, que je dois suivre. C'est pour ça que les personnes qui sont plus proches de la nature, par exemple, ont plus de facilité à rendre... Parce qu'elles touchent au quotidien beaucoup plus la dépendance de l'homme, que l'homme n'est pas la source. C'est pas parce que on dit que l'arbre, on le plante par les racines, mais maintenant, on va le planter par les feuilles. Tu peux toujours essayer. Parce que dans la terre, il y a un principe de réalité auquel je me heurte en permanence. Mais les sciences ont permis petit à petit, alors avec tout le bénéfice qu'on sait, à l'homme de se défaire, de se détacher de la nature, et donc de ne pas... Au fond, ça, petit à petit, s'est mis lui-même comme limite. Et on a atteint actuellement une puissance au niveau des sciences, et bon, il y avait une sorte de messianisme, on va dire, scientifique, les sciences vont libérer l'homme de tout l'esclavage et surtout de l'obscurantisme de la foi. Et puis il y a eu tout le XXe siècle, les grandes idéologies marxistes et nazies, et on a vu au fond que face à ce messianisme scientifique, c'est-à-dire que la science va apporter un bonheur et un bonheur des ici-bas, face à ce messianisme scientifique, ça a été quand même un échec. Mais n'en demeure pas moins que l'homme avec la science a acquis une puissance, et une presque une toute puissance sur beaucoup de choses. D'une certaine manière, la science donne à l'homme maintenant les moyens de ses projets. Avec la science, on n'est pas tenu à l'obéissance à la nature, on est devenu son propre chef. Comme cette science avait toujours en évolution, ça me fait dire aussi que je dois toujours me créer, toujours m'inventer. Et la nature humaine sera qu'un matériau disponible au profit de la science. Dans le relativisme, il faut le mettre en parallèle avec ce qu'on appelle l'éthique de la discussion. La vérité, ce n'est pas ce qui est, la vérité, c'est ce que la majorité pense être vrai. C'est ce qu'on appelle une vérité consensuelle. Si on dit, on se met d'accord entre nous que ce n'est pas une table et que c'est une chaise, bon, on prend des exemples pour montrer un peu forcé, mais vous savez, on n'en est pas tellement loin. Hein. N'oublions pas que Hitler est arrivé au pouvoir par le consensus, par de façon démocratique, et que les lois raciales ont été votées par un parlement élu démocratiquement. Donc là, c'est-à-dire qu'on disait, ben non, ça c'est un juif, donc c'est pas un homme. Ça c'est une personne handicapée, c'est pas un homme. On respecte les droits de l'homme, mais ce qu'est un homme dépend de ce qu'on vote. Donc à un moment donné, je pouvais très bien dire, ben, ça c'est pas un homme. Non, je respecte les droits de l'homme, mais ça c'est pas un homme. Ah oui? Hein, ce qui est dans le sein de la femme, hein, cet ovule fécondé, on ne dit pas que c'est... Non, c'est un amas de cellules. Mais ce n'est pas un homme. Exactement le même principe. Et ça, on l'a décrété. Et on l'a voté. Ce n'est pas ce qui est dans le sein de la femme enceinte qui va dire, ben non, mais là, si on a un homme en puissance, bien sûr, il n'est pas en réalisation. Bien sûr, il est en puissance, mais le bébé aussi, il est en puissance à beaucoup de choses. Il est en train de se développer. Hein? Mais il faut protéger les débuts. Parce que si on ne protège pas les débuts, on n'aura pas non plus l'accomplissement. Mais ça, c'était voté démocratiquement. Vous voyez, on est dans le même principe. Ce qui fait à dire à Jean-Paul II, on n'est pas sorti des idéologies totalitaires du XXe siècle. Mais avec le danger, c'est que maintenant, la science atteint en 50 ans, un pouvoir tel que si on arrive à un certain totalitarisme, il sera bien pire que les autres. Parce que il aura beaucoup plus les moyens donnés par la science, hein, que ce qu'avaient les totalitarismes communistes et nazis. Donc la vérité consensuelle, ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle l'éthique du dialogue. Le dialogue n'est mesuré par aucune norme extérieure. L'idée même d'une autorité extérieure est vue comme un obstacle au dialogue. Mais non, si on est tous en train de dialoguer, vous nous dites, attention, il y a une limite. Mais au nom de quoi vous nous dites ça? Si on est tous d'accord, si on est consentant, sur quoi vous vous fondez pour nous dire qu'il y a une limite? Vous ne vous opposez pas à la majorité, vous êtes antidémocratique, vous n'êtes pas tolérant, vous ne serez pas un peu facho. Et donc il y a une certaine neutralisation des discours. Évidemment, comme on n'accepte pas une autorité, l'autorité ne serait-ce que du réel, qui guide ma réflexion, qui me laisse un champ ouvert de réflexion. Mais comme on n'accepte pas l'autorité, une autorité du réel, comme on n'accepte pas une autorité, ben alors là, c'est toute la... Derrière le relativisme, c'est toute la crise de l'autorité. Bien évidemment, les discours entre eux s'annulent, parce qu'il n'y a pas un discours qui vaut plus qu'un autre si chacun sa vérité. Vous comprenez, c'est cette manière de concevoir qui fait que, au fond, je ne veux pas de limite. Je me mets à la source. Donc l'éthique de la discussion, c'est que un discours vaut un autre discours du moment qu'on ne me l'impose pas. Et du moment qu'il respecte l'éthique de la discussion. Si quelqu'un vient en disant « Non, attention, il y a quelque chose d'objectif, vous êtes en dehors des clous », ah non, respectez l'éthique de la discussion. Vous voyez, du moment qu'on me met une limite, j'apparais comme « je mets une limite, donc je suis intolérant ». Parce qu'il n'y a rien au-dessus du consensus auquel nous sommes arrivés. Mais si le consensus déraille, ce qui est arrivé dans l'histoire, donc la logique de l'éthique de la discussion, c'est ne tend pas à la vérité, ça ils s'en fichent royalement, il faut créer un consensus qui soit le plus englobant possible. La recherche du vrai n'a pas de sens. On discute de tout. Ça se discute. mène les émissions là-dessus. Donc ça se discute, on discute de tout. Écoutez, on ne va pas discuter. Vous voyez, rien que le mettre de fait en discussion, de mettre en discussion des choses qui auparavant ne se discutaient pas, rien que ça, c'est introduire un doute. Je me rappelle, on m'avait signalé par Internet que Le Monde faisait justement un sondage sur la question des lois concernant le mariage homosexuel. Est-ce qu'on voulait que les lois qui sont en Espagne s'appliquent en France ? Mais rien que le fait de poser la question, c'est ouvrir la porte. Ah, il y a 30 ans, cette question-là était impossible. Il y a 20 ans, elle était impossible. Elle était impossible. Maintenant, tout se discute. Mais jusqu'où on va aller ? C'est ça. L'intelligence n'accepte rien, disons, n'accepte pas d'être fécondée par le réel, mais c'est elle qui doit produire. Et c'est très enthousiasmant et très valorisant, extérieurement parlant. Une manière, un procédé comme ça, c'est très valorisant parce que précisément, je m'auto-crée, c'est un peu grisant, quoi. C'est euphorisant parce que on est à la source de soi. On a les moyens par la science qu'auparavant on n'avait pas. Donc enfin on est sorti de l'obscurantisme. Et puis on va créer les choses. Mais Jean-Paul le dira, mais une intelligence qui ne part pas de quelque chose, qui n'accepte pas un donné réel, finit par tourner sur elle-même, finit par patiner. Avec la relativisme, moi j'ai mis ça en lien avec tout ce qu'on appelle la mentalité sécuritaire. D'où vient cette mentalité sécuritaire ? Toutes les normes d'hygiène, les normes, mais de façon excessive. On sent que, bon, il y a le bon sens. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas faire un barbecue sur une bonbonne de gaz. Bon, d'accord, mais. Il y a un bon sens, non. Maintenant, tout doit être normé. D'où ça vient ? Ouais, en matière d'hygiène, ce qu'on appelle le principe de précaution. Alors là, ça c'est redoutable. Le principe de précaution. On doit tout prévoir. Pourquoi ? Et par exemple, les médecins, ça c'est terrible en médecine, les médecins doivent dire tout ce qui peut vous arriver, parce que sinon, on se retournera contre eux parce qu'ils n'ont pas prévu que telle maladie pouvait avoir telle conséquence. Du coup, vous arrivez avec un mal à l'estomac, vous savez, ça peut être un cancer, vous savez, ça peut être machin, etc., et vous terminez avec une dépression. Donc, mais s'il ne fait pas ça, ah ben vous ne me l'aviez pas dit. Vous ne me l'aviez pas dit. Ah, vous ne m'avez pas dit que ça pouvait... Oui, c'est vrai que ça peut être un mal de... Oui, mais bon, ben... Le médecin, c'est pas Madame Soleil, donc il a ce que nous donne la science. Mais ça arrive presque, par exemple, le fait de faire des échographies pour les femmes enceintes, beaucoup refusent. Parce que précisément, il faut dire, bah, attention, et si j'ai un enfant handicapé et que je ne l'ai pas vu, parce que l'échographie, ça montre quand même des choses, mais ça ne montre pas tout. Puis il y a des choses qui se déclarent après la naissance. Et si je ne l'ai pas vu ? Alors du coup, c'est ça, cette mentalité sécuritaire, au fond, est un épiphénomène de la mentalité relativiste. Comme je n'accepte rien extérieur à moi-même, on peut dire d'une certaine manière de limite, je ne fais pas confiance. Je ne fais plus confiance. Parce que faire confiance, c'est accepter quelque chose qui ne dépend pas de moi, et que je n'ai pas construit, et que l'on n'a pas voté. Donc vous comprenez bien que dans la mentalité relativiste, il faut bétonner au maximum parce qu'il y a moi. Et donc, il faut éviter les failles. Hein ? Il faut maîtriser les choses, rien laisser au hasard. Hein ? Le relativiste ne fait pas confiance car la confiance, c'est l'acceptation de quelque chose extérieur à soi-même. Or, dans le relativisme, l'homme est la mesure de lui-même et n'est mesuré par rien. Donc il faut qu'il se protège. Pas de place à la vulnérabilité. À quelque chose qui m'échapperait. Qui ferait que je dépende de quelqu'un. Ou de quelque chose que je n'ai pas choisi. Pas de place à la vulnérabilité. Et derrière ça, c'est toute la question de la souffrance. Pas de place à la souffrance. mais pas de place à la souffrance. Enfin, je crois que le fond du problème, bon, là c'est plus une attitude spirituelle intérieure, c'est l'accueil de la souffrance. Et on veut tout bétonner et se blinder, hein, pour ne pas justement souffrir. Mais ça arrive à paralyser la vie. Parce que, mais en même temps, la vie, elle m'échappe. Et à vouloir tout structurer, c'est que personne ne fait plus rien, parce que s'il fait un mouvement à droite, à gauche, ben ça y est, il se reçoit, non, attention, vous n'avez pas respecté le principe de précaution, vous n'avez pas respecté telle norme, vous n'avez pas respecté le truc anti-incendie, les normes d'hygiène, les machins, les trucs. Parce que précisément, donc plus personne ne veut rien faire, mais l'accueil, le fait de faire confiance, c'est aussi accepter que, bien sûr, on fera tout pour éviter la souffrance, mais que ben, il peut y avoir des failles, que je suis créature, que je ne suis pas Dieu. Mais ça nous rappelle quelque chose. Hein, Genèse, hein, 3, c'est « Je suis créature, je ne suis pas Dieu », dans le langage symbolique, mais réel, de l'Écriture, hein, le fait de le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'est assez intéressant que ce soit cet arbre-là, qui n'existe pas dans la nature, de toute façon. Donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que le bien et le mal, donc tu n'y toucheras pas, c'est-à-dire le bien et le mal, tu l'accueilles, c'est pas toi qui en es maître. Le fait de manger et de prendre, c'est moi qui suis à la source du bien et du mal. Je n'accepte pas l'interdit. Mais l'interdit, c'est ce qui rend possible la communion. Parce qu'il y a quelque chose, interdit dit entre, inter, entre. Ce qui est dit entre nous, il y a des règles qui sont dites entre nous, qui vont permettre la communion, comme il y a des règles dans un couple, comme il y a des règles dans une famille, comme il y a des règles dans une société. Mais une société sans règles, ben il n'y a plus de vie possible, il n'y a plus de communion possible. L'interdit, il est structurant. Hein, il construit la personne. Un enfant, ben, auquel on ne mettrait aucun interdit, mais c'est un enfant qui sera anxieux. Ben, on a vu ça quand on a parlé du rôle du père dans la famille, mais qui sera anxieux, qui sera angoissé, mais sera toujours à la recherche d'une limite. Donc dans cette mentalité relativiste, il y a une mentalité sécuritaire, ne rien laisser au hasard, il faut se protéger, pas de place à la vulnérabilité. Et donc on développe une certaine paranoïa. J'ai peur de perdre mon autosuffisance. Parce que ben, il faut que je maîtrise mon système. C'est assez comme un épiphénomène, assez intéressant, toutes les questions d'antivirus, par exemple, dans les ordinateurs. Alors il faut de plus en plus cette protection. Mais vous voyez, ça se transmet ensuite à l'attitude personnelle. Parce qu'il y a des virus. Donc il faut un antivirus, il faut un firewall maintenant pour être protégé, parce qu'on peut venir dans mon... Donc, et on développe la sensation que je suis menacé. Vous voyez, je suis, qu'il faut que je me défende. Le relativiste, évidemment, aura de la difficulté à s'engager, surtout à un engagement qui est pour la vie. Pourquoi ? Parce que dédié à l'engagement pour la vie, c'est de dire ben je suis ce que j'ai, ce à quoi je me suis engagé, mais c'est peut-être vu comme une perte de liberté. Et on voit bien la difficulté de nos sociétés aux engagements à vie, hein, vient un peu de là. C'est que le fait de un engagement à vie, ça veut dire qu'à un moment donné, j'aurai à accueillir quelque chose que je n'ai pas choisi. Et on sait bien, dans la vie matrimoniale, sacerdotale, familiale, personnelle, on a à accueillir quelque chose qu'on n'a pas choisi. Mais si c'est moi qui dois tout contrôler, si c'est moi qui dois tout maîtriser, qui suis à la source des choses, de ma vérité, de ma cohérence, de mon bonheur, de ma foi, ben non, il faut que... Et commence à accueillir quelque chose que je n'ai pas choisi, mais c'est une entrave à ma liberté. Donc, tac, on part. Dans le relativisme ambiant, et c'est complètement ambiant, vous le sentez bien maintenant, c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air, tout à fait dans l'air moderne, il y a la non-acceptation d'une frustration. Non-acceptation d'un interdit, d'une limite. Et donc, ça crée des sociétés un peu puériles, qui sont toujours basées sur la satisfaction immédiate, le plaisir instantané. Une certaine culture de la facilité, au fond. L'effort, la notion même d'effort, peut être vue comme une menace pour moi-même. Et c'est vrai que la science permet un confort, dont on bénéficie tous, et une facilité jamais atteinte jusqu'à présent. On fait clac avec sa voiture et toutes les portes se ferment. C'est quand même bien pratique, on est bien d'accord. Et c'est comme ça que ça rentre, parce que ça, qui va prendre l'escalier alors qu'il y a un ascenseur? Les masos. Vous voyez, c'est... Mais comment vous faire sentir que à travers cette... La facilité ne rend pas l'homme heureux. La permissivité ne rend pas l'homme heureux. Ça rend pas l'homme heureux. Et ensuite, ça, on le transpose aux relations. Vous voyez, on est une unité. Ce que je vis, dans ma relation à mon ordinateur, si on peut parler de relation, dans le quotidien, etc., petit à petit, je vais le transposer aux relations humaines. Il y a une continuité, évidemment, je suis la même personne. Et donc, l'autre s'oppose à moi, l'autre n'est pas pareil que moi, il est une menace. Quelles sont les manifestations dans la société du relativisme? Ça, c'est donc la première partie qu'on a faite jusqu'à maintenant. On peut dire la définition du relativisme en partie, oui, c'est ça. Premièrement, les questions relatives à la vie. La science maintenant permet à peu près beaucoup de choses concernant la vie humaine et surtout la vie, le début de la vie humaine. Et par exemple, ce qui est assez frappant, n'est tenu en compte que le projet parental. L'enfant existe s'il y a un projet parental. L'embryon existe s'il a un projet parental. Non pas parce qu'il existe en tant que tel en dehors de tout projet. Non. Je l'accepte parce que j'ai un projet sur lui. Et évidemment, toute l'ouverture à tout ce qu'on appelle l'interruption volontaire de grossesse, là c'est intéressant, l'interruption volontaire de grossesse, qui a été consensuellement décidée, et qui décide au fond que ce n'est pas, donc on dépénalise l'IVG, c'était ça qui s'est passé en 75, et au fond on décide, ce qui avant était pénalisé, maintenant ne l'est plus. Tout simplement parce qu'avant on mettait l'embryon dans l'ordre des personnes humaines, c'est-à-dire dans le droit, il y a deux grandes parties du droit, il y a le droit des personnes et le droit des choses. Dans quoi se situe l'embryon? Dans le droit des personnes. Mais alors... Alors, l'avortement, donc il y a un problème. Dans le droit des choses, donc on peut le vendre. Ah ben non, on ne peut pas le vendre. Une chose, on peut la vendre, on peut l'acquérir, on peut la... Dans le droit des personnes, donc un embryon pourrait hériter à la limite. Et s'il arrive à maturation et devenir comme un petit bébé, ben il aurait... Est-ce qu'on... Vous voyez, c'est les énormes questions que ça pose en droit, en matière de droit. Comme le droit n'est plus assis sur une objectivité, il se tape la tête contre le mur. Le juriste, c'est assez difficile. Et on assiste justement à une multiplicité de lois qui, de plus en plus, veulent assurer les choses, parce que tout simplement, on n'est pas dans l'accueil du réel. Et on voit bien dans le, Vous entendez ça, c'est la production de lois actuellement, mais est ahurissante. Ahurissante. La contraception part du même principe, s'il faut comprendre, c'est que c'est une mentalité contraceptive. Je n'accueille pas, le couple n'accueille pas une loi, si on a vu ça sur, quand on a parlé de la contraception et de la sexualité ensemble l'année dernière. Hein. Je n'accueille plus une loi qui est une règle ou des règles qui sont dans le corps de la femme, qui sont des règles pour l'homme et pour la femme. La contraception supprime toute règle, hein, et donc évidemment, c'est moi qui suis à la source. Et donc je suis, oui, c'est une manière de voir. Je veux maîtriser les choses au lieu d'être ouvert à la vie. Ouvert à la vie veut dire penser en fonction de la vie. Je ne pense plus à fonction de la vie qui est extérieure à moi-même, mais c'est moi qui suis au centre. Et je m'étonne tout, je maîtrise. C'est bien plus pratique. Pourquoi on va se pomper l'air? Vous voyez, c'est la non-acceptation de règles. Alors vous comprenez, c'est tout à fait dans cette mentalité. On ne raisonne plus par rapport à la vie, par rapport à quelque chose d'extérieur, mais simplement par rapport à la volonté des parents. Tout ce que ça entraîne. L'acharnement, on peut parler aussi de l'acharnement procréatif. Hein? La FIV, c'est pareil, c'est l'enfant est un dû et non pas un don. C'est un dû. J'y ai droit. On va le fabriquer, donc on va prendre tous les moyens pour y arriver. Il n'y a rien qui soit au-dessus de mon projet, de mon désir. Ce qui est assez... il faut voir la conséquence de ça. C'est qu'ensuite, l'enfant devient comme ma fabrication. Vous voyez, c'est un artefact, d'une certaine manière, quelque chose que j'ai fabriqué. Avec tout ce que ça implique par derrière. Alors bien sûr, on touche aussi des grandes souffrances dans la question des couples qui n'ont pas d'enfants, etc. Ben ça, bien sûr, on est attentif à ça, mais pour vous dire, pourquoi la position de l'Église là-dessus, qui est souvent incomprise, pour pas dire toujours, précisément parce que des droits de l'enfant dépend le fait d'être conçu dans une relation amoureuse. Ça fait partie des droits de l'enfant. D'être accueilli comme un don de Dieu par le couple, hein, et que cette vie-là, elle ne vienne pas de même. Mais vous voyez, dans le relativisme, il n'y a pas de notion de Dieu, évidemment, qui serait une menace pour l'homme. Il n'y a pas de notion de vie éternelle. Hein, et c'est une vision matérialiste. C'est-à-dire, l'homme est un amas de cellules et l'intelligence est comme le sommet de la progression de la matière. Mais il n'y a rien qui soit en dehors. Il n'y a pas d'éternité. Bien sûr, il n'y a pas Dieu. Donc, évidemment, vu comme ça, on peut tout faire si c'est un amas de cellules. Mais vous vous rendez compte des conséquences? Ensuite, l'enfant que j'ai voulu avoir via FIV et compagnie, et s'il est anormal? Ah ben non, moi j'ai le droit à un produit fini. C'est un produit. On est dans le domaine des choses. Mais ça donne le vertige. Si une personne passe dans le domaine des choses, c'est énorme. Ma volonté prime, il n'y a rien de plus que ma volonté. On peut mettre à l'autre bout de la chaîne l'acharnement thérapeutique, par exemple. Autant l'acharnement thérapeutique que l'euthanasie. On n'accepte pas la mort, parce que la mort, évidemment, est une limite. Donc on veut absolument... Bon. Ou alors... C'est moi-même qui suis... ma vie, elle est comme c'est moi-même qui la gère, ben j'ai le droit, hein, droit de vie ou de mort sur moi-même, du moment que je l'ai décidé. Et donc, on voit par exemple en Belgique, maintenant, la possibilité de, qu'on appelle ça, la mort en douceur, ou la fin de vie heureuse... Vous voyez, c'est... Il y a... ça, c'est une... Bon, faudrait détailler, mais il y aurait... En matière de vie, parce que maintenant, justement, la science donne une possibilité aussi bonne. Il y a, bien sûr qu'il y a des choses tout à fait bonnes dans la science, mais comme elle ne se laisse pas mesurer par autre chose, ben on arrive à des dérapages comme ça. Ensuite, le relativisme moral. Alors là, ça c'est le pompon. Le relativisme moral, tout est permis du moment que je suis consentant et que, évidemment, je n'impose pas à l'autre. Ça c'est la loi, je ne dois pas rien imposer à l'autre. Mais ce que je fais moi-même, hein, tout est permis. Ou entre adultes, on peut faire tout du moment qu'on est consentant. Le bien et le mal, je le détermine. Ça fait qu'on arrive à une sorte d'anesthésie des consciences. Non, on ne voit pas où est le problème, on ne voit pas le mal, pourquoi se confesser? J'ai pas tué père et mère, j'ai pas. Ou alors, bon. Ou alors on rentre dans une auto-justification permanente. L'idée même d'une hiérarchie des valeurs morales, hein, n'est pas acceptable dans le système relativiste, précisément parce que qui dit une hiérarchie dit l'acceptation de quelque chose auquel j'aurais à adhérer. Et donc je n'ai pas construit. Le mal et le bien, c'est moi qui le détermine. À chacun sa vérité. Du moment que je n'impose pas mon système, alors ça c'est vraiment la grande règle, ne rien imposer à personne, du moment que je n'impose pas ton système, mais le mal et le bien, c'est moi qui le détermine. Mais on va voir au fond, comment après, et c'est ce que disait Benoît XVI et Ratzinger, comment après le relativisme sous l'aspect de quelque chose de très libérant, parce qu'évidemment, comme on se libère de toute contrainte, et qu'on est à cet enthousiasmant, c'est euphorisant, on est à la source de son système, mais derrière ça, il y a un totalitarisme qui se cache. C'est de sa nature totalitaire, on va voir pourquoi. Hein, pourquoi la dictature du relativisme, la dictature de la tolérance. Donc on voit une permissivité morale, mais on ne peut plus rien dire, parce que, au fond, bon. Donc c'est le régime aussi de la spontanéité en matière morale, par exemple. Et tout est basé sur les émotions, du moment que je le sens, ben, si je le sens, hein, mais si je ne le sens plus, ben, je t'aime parce que je le sens, et puis ensuite je ne te sens plus. Je ne peux plus te sentir. Alors qu'est-ce qui se passe? On ne s'aime plus? Mais c'est... Ben, problème. Quand je fais la préparation pour les fiancés, je leur dis toujours, l'amour c'est un acte humain, je sais ce que vous allez faire, c'est un acte humain, la définition c'est que ça implique l'intelligence et la volonté. Donc il y a des raisons pour aimer l'autre, objective. Hein, donc, mais si je suis simplement sur le ressenti, alors bien sûr qu'il y a un ressenti, parce que bon, mais heureusement, mais il doit être là comme un soutien pour le travail de l'intelligence. Mais vous voyez, avec un système comme ça, on est beaucoup basé sur l'émotion, sur l'aspect émotionnel. On ne fait plus sur le spontané, sur le tout de suite, sur une permissivité, parce qu'il n'y a rien qui vient contrôler, qui vient, d'une certaine manière, équilibrer mon agir. Tout est discutable, et c'est possible du moment que c'est voté, parce qu'on a vu. Hein. Il n'y a pas l'acceptation de quelque chose qui soit antérieur au politique. C'est-à-dire qu'il soit antérieure à ce qui est décidé, parce qu'en tant que tel, la démocratie, c'est un système qui est bon, mais est-ce que j'accepte quelque chose, un donné réel, tant au niveau peuple, nation, qu'au niveau personnel, qu'au niveau famille? Est-ce que j'accepte de dire, il y a des règles qui ne dépendent pas de moi? On parle, l'homme est fait pour la femme pour l'homme. Dans peu de temps, ça ne deviendra pas du tout une évidence. Ce qu'on appelle l'orientation, le trouble dans le genre, ce qu'on appelle le genre. Le genre, c'est qu'il y a, on dit, il y a quatre genres maintenant. Il y a homme-femme, donc avant on en connaissait, maintenant il y en a plus, quand vous ne soyez pas autrement. Donc bisexuel et transsexuel, donc ça fait quatre genres maintenant. Au lieu de dire non, il y a deux genres, il y a homme et femme. Et ça, j'accueille, ah non, j'ai mon sexe biologique, mais j'ai mon sexe psychologique que je veux me former. Et je veux que mon corps soit adapté à ce que mon projet. Et donc, on va se faire des tas d'opérations. Bon, ça reste marginal, on est bien d'accord. Mais rien que le fait de dire, ce qui est beaucoup moins marginal, c'est de dire que l'homme est fait pour la femme pour l'homme, la pression du lobby homosexuel, par exemple, est assez impressionnante. c'est derrière la revendication, je vais vous mettre un livre tout à l'heure, derrière la revendication à la différence, il y a la négation de la différence. Parce que la première différence, c'est quand même la différence homme-femme, celle qui apparaît la plus facile, la plus évidente. En matière politique, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il y a comme un égalitarisme ambiant. Tout est politique, rien n'y échappe. Toute différence limite est vue comme négative et apparaît comme une aliénation. Hein, on discrimine. Attention, vous me discriminez. Non, on ne discrimine pas, mais on dit les choses comme elles sont. Mais non, mais vous me discriminez. On veut faire à travers ça une humanité qui est à notre image et notre ressemblance. Mais en même temps, on assiste dans la société à une sorte de d'émiettement, de parcellisation, de la notion même de corps, on en parlait, est pratiquement difficile parce que, comme c'est une juxtaposition de système, l'individualisme est comme la norme, la notion même d'un corps et le fait de parfois sacrifier mon plaisir immédiat pour le bien de tous, que ce soit la famille, le couple ou la nation, c'est devenu inaudible. Donc on voit comme un émiettement à tous les niveaux, hein, au niveau des partis, au niveau des la logique de parti, par exemple, n'est pas acceptée au niveau de la famille, de dire la reconnaissance d'une autorité. Qui dit un corps dit une autorité. Mais la négation de l'autorité, la crise de l'autorité, évidemment, n'est pas acceptée. Donc c'est vous voyez, c'est le relativisme, petit à petit, émiette et fait qu'arrive un individualisme, mais qui ensuite se retourne contre l'individu.